Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Quand Emmanuel Macron emboîte le pas de Jacques Chirac à Jérusalem au premier jour de sa visite en Israël, le président français a eu une altercation avec les policiers israéliens. Le reportage de notre correspondant Frédéric Mettezo dans un instant. 17 morts, c'est le dernier bilan provisoire du mystérieux coronavirus en Chine. Les autorités chinoises ont décidé de suspendre tous les transports à Wuhan, la métropole d'où l'épidémie est partie. Les précisions de Dominique André à Pékin. En France, le gouvernement annonce une revalorisation du salaire des enseignants-chercheurs. Ils toucheront au minimum deux fois le SMIC en début de carrière. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est l'invité de ce journal. Voilà des images qui marqueront l'histoire des visites présidentielles françaises en Israël. Un incident a opposé aujourd'hui à Jérusalem Emmanuel Macron à la police israélienne. Les policiers voulaient pénétrer dans l'enceinte de la basilique Sainte-Anne, un lieu qui a le statut de territoire français en plein cœur de la vieille ville. Le chef de l'État a refusé cette intrusion. L'incident rappelle bien sûr l'échange musclé entre Jacques Chirac et la sécurité israélienne en 1996. Le reportage à Jérusalem de Frédéric Mettezo.
Comment retenir une autre image qu'un Emmanuel Macron les traits tendus, secs, énervés, dans un anglais parfait mais avec un net accent français. L'église Sainte-Anne est possession française en pleine vieille ville de Jérusalem. Comme en 1996, pendant la visite de Jacques Chirac, les forces de sécurité israéliennes ont voulu entrer armées, intolérable pour le chef de l'État. Tout le monde connaît les règles. Je n'aime pas ce que vous faites devant moi. Vous connaissez les règles. Personne ne provoque personne. On reste calme. Nous avons eu une belle promenade. Vous avez fait un super boulot dans la vieille ville. J'ai apprécié. S'il vous plaît, respectez les règles comme elles sont depuis des siècles. Emmanuel Macron a ensuite rencontré des responsables des églises chrétiennes en Orient, puis à la sortie, il est revenu sur l'incident.
Il y a eu un moment d'énervement entre les équipes de sécurité et il me revenait d'y mettre bon ordre en réexpliquant quelles sont les règles. Il n'y a pas de préméditation parce que je pensais que ça serait bien. C'est un peu le jeu et la parenthèse a été refermée.
Mais les autorités israéliennes n'ont pas la même lecture. Dans un communiqué, la police et la sécurité intérieure écrivent qu'Emmanuel Macron s'est excusé pour l'incident. Un peu plus tôt, tout s'était bien déroulé, la déambulation en vieille ville n'était pas au programme, elle a finalement duré 2 heures, en passant par le Saint-Sépulcre. Les commerçants arabes qui l'ont salué étaient ravis, comme Nafez.
Jacques Chirac était déjà passé ici, il a fait pareil, j'étais là, nous sommes ravis que Macron vienne à Jérusalem-Est.
Ahmed voit même plus loin que Jacques Chirac.
Tous les présidents se réfèrent à l'Amérique. Ce que l'Amérique dit, ils le font à 100%. J'espère que les Français redeviendront comme Charles de Gaulle.
Macron, superstar des Palestiniens. En ce moment, le président rencontre son homologue Mahmoud Abbas à Ramallah. Demain, retour à Jérusalem pour les cérémonies commémorant le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz.
Frédéric Mettezo, correspondant à Jérusalem. Ce matin, Emmanuel Macron avait rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puis le président de l'État hébreu Reuven Rivlin. L'occasion pour le président français de rappeler sa position sur les nouvelles forme d'antisémitisme. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme, a déclaré le chef de l'État. Les jours passent et le bilan du mystérieux coronavirus venu de Chine ne cesse de s'alourdir. 17 morts aujourd'hui, selon les derniers chiffres officiels. L'épidémie est apparue dans la province de Hubei, une province centrale. Un animal pourrait en être la source primaire, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités chinoises ont pris de nouvelles mesures pour enrayer la propagation du coronavirus. Il y a urgence car des centaines de millions de personnes s'apprêtent à voyager pour le nouvel an chinois. On fait le point à Pékin avec Dominique André.
L'aggravation du bilan qui passe de 9 à 17 morts oblige les autorités chinoises à prendre de nouvelles mesures pour contrôler l'épidémie. Des opérations de désinfection et de ventilation sont menées dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux en Chine. Des contrôles de température vont être effectués dans des lieux très fréquentés. À Wuhan, dans le centre de la Chine, les animaux vivants sont interdits sur les marchés. C'est là qu'est apparue la maladie il y a un mois. La police fouille les camions à l'entrée de la ville. Les événements publics public à l'occasion du nouvel an lunaire sont surveillés. Des matchs de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 prévus à Wuhan sont délocalisés dans l'est du pays. Des restrictions de voyage sont imposées. Les agences de tourisme locales suspendent des voyages en groupe à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 février. De plus en plus de Chinois portent le masque, effrayés par l'émigration de centaines de millions de personnes à l'occasion du nouvel an lunaire cette semaine.
Dominique André, correspondante de Radio France en Chine. Et ce soir, les autorités chinoises annoncent la suspension de tout le trafic aérien et ferroviaire au départ et à l'arrivée de la ville de Wuhan. Les transports en commun sont également suspendus dans cette métropole de 11 millions d'habitants. En Italie, la crise politique s'accélère au sein du mouvement 5 étoiles, membre de la coalition gouvernementale. Son chef Luigi Di Maio a démissionné aujourd'hui de la tête du parti. Une démission qui intervient à 4 jours d'un scrutin régional crucial en Émilie-Romagne. Scrutin crucial pour la survie du gouvernement italien. Une nouvelle victoire de la Lega de Matteo Salvini pourrait entraîner de nouvelles élections en Italie. Luigi Di Maio reste pour l'instant ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement a donc décidé de faire un geste financier pour les jeunes enseignants-chercheurs. Leur salaire va être revalorisé dès l'an prochain. Une enveloppe globale de 26 millions d'euros est prévue à cet effet. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est l'invité de ce journal. Nous l'avons rencontré cet après-midi au Sénat. Première question, que représente cette enveloppe de 26 millions d'euros pour chacun des enseignants-chercheurs? La réponse de Frédéric Vidal.
Nous avons, dans le recrutement des jeunes chercheurs et des jeunes maîtres de conférences, un problème d'attractivité lié à la faiblesse des rémunérations. Actuellement, ces rémunérations, au départ, se situent entre 1,3 et 1,4 SMIC. Et l'engagement que j'ai pris, et ce sur quoi nous commençons à travailler avec les organisations représentant des personnels et les conférences, c'est comment faire en sorte que plus aucun jeune chercheur ou jeune enseignant-chercheur ne soit recruté en dessous de 2 SMIC dès 2021. L'enveloppe qui a été estimée nécessaire pour cela est de 26 millions d'euros. L'objectif, c'est que nous n'ayons plus ces jeunes qui hésitent à embrasser la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur à cause de la faiblesse des rémunérations de départ.
Est-ce que l'on peut chiffrer ce que ça représente pour chacun des enseignants-chercheurs?
Alors, ceux qui sont recrutés effectivement à 1,3 ou 1,4 SMIC, puisque ça dépend de la façon dont ils sont reclassés ensuite, c'est un gain de presque 8000 euros par an. En moyenne, c'est un gain de 2600 à 2800 euros par an.
Vous pensez que cela suffira pour attirer les meilleurs enseignants-chercheurs dans le public, sachant qu'ils peuvent être tentés par le privé, voire par une carrière à l'étranger?
Alors, c'est une des mesures qui sera présente dans la loi de programmation de la recherche, mais au-delà de ces mesures, nous travaillons sur beaucoup d'autres choses. Nous travaillons sur le fait que les doctorants aient tous accès à des contrats doctoraux, sur le statut des post-doctorants. Et puis nous envisageons aussi de mettre en place des chaires de professeurs juniors, de manière à, dans les disciplines ou pour des profils qui sont difficiles à garder en France, eh bien, on puisse faire plus. Ce qui est important, c'est que les jeunes qui sont formés en France sachent qu'ils peuvent avoir des carrières dans la recherche publique, que ce soit dans les universités, dans les organismes de recherche, qui soient aussi favorables que ce qu'ils peuvent trouver parfois dans d'autres pays.
Frédéric Vidal, vous mettez aussi sur la table une enveloppe de 92 millions d'euros pour la revalorisation des primes. Les syndicats, notamment la FSU, disent que cela reviendra à une augmentation dérisoire par mois de quelques dizaines d'euros. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument?
Alors moi, ce qui me paraît important, c'est de rappeler qu'il y a aujourd'hui, dans les missions qui sont accomplies par les personnels de la recherche au sens large, énormément de missions qui ne sont pas prises en compte, ni en termes de primes, ni en termes de carrière. Et l'objectif de la loi de programmation de la recherche, c'est de faire en sorte que toutes ces missions qui sont confiées au personnel de la recherche puissent être reconnues et valorisées. Donc là encore, c'est une première étape. Le montant global, si je puis dire, des primes actuellement entre enseignants-chercheurs et chercheurs, c'est environ 225 millions d'euros. Donc là, c'est 92 millions d'euros supplémentaires pour l'ensemble des personnels de la recherche, de manière à ce que l'on commence à pouvoir reconnaître toutes ces missions qui sont accomplies par ses personnels.
Frédéric Vidal, la réforme de la retraite inquiète les enseignants-chercheurs, de même que l'ensemble des fonctionnaires, puisque désormais leur retraite sera calculée sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 6 derniers mois. C'est presque finalement une obligation de revaloriser les traitements.
Alors, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, sur laquelle nous travaillons depuis maintenant plus de 11 mois, l'objectif, c'est de redonner de l'attractivité au métier de la recherche. Et ce n'est pas quelque chose qui vient se substituer à la question de la retraite. Mais je vais simplement vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté en moyenne à 34-35 ans dans des carrières de chercheurs ou de maîtres de conférences et que vous devez travailler 42 et bientôt 43 ans, de toutes les façons, votre retraite, c'est 67 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi spécifiquement pour ce type de personnes, eh bien des améliorations qui seront apportées parce qu'on revalorise globalement les salaires, qui seront apportées parce qu'il y aura des compensations probablement de manière à ce qu'il n'y ait pas de pertes, mais ça a été rappelé très clairement. Nous avons dans les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche un sous-investissement dans l'indemnitaire qui est un vrai problème, et l'objectif, c'est bien que nous puissions arriver à un niveau d'indemnitaire qui soit comparable à celui de corps équivalent dans la fonction publique. Et tout ça, ça sera travaillé, mais ce n'est pas l'objet de la loi de programmation de la recherche. L'objet de la loi de programmation de la recherche, c'est bien de revaloriser l'ensemble des métiers de la recherche.
Il y a aussi la question des recrutements. Est-ce que votre gouvernement s'engage à augmenter les effectifs dans la recherche publique?
Alors effectivement, c'est une question qui est très importante et que nous avons aussi évoquée ce matin. Toutes les choses qui sont annoncées sont des choses qui vont venir en plus et qui vont permettre de favoriser l'emploi dans la recherche publique. C'est essentiel parce que nous formons de très nombreux jeunes, parce qu'il nous faut aussi avoir une meilleure reconnaissance du doctorat, y compris dans des carrières non académiques. Et donc c'est vraiment une transformation de fond que nous faisons de ce point de vue-là.
Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors ce plan de revalorisation annoncé par le gouvernement est d'ores et déjà contesté par de nombreux enseignants-chercheurs, à l'image de Gilles Martinet, doctorant attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Gilles Martinet fait partie du collectif Fac et Labo en lutte.
Revaloriser les salaires des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, c'est très bien, mais quand on ne crée pas de poste, ça règle absolument pas le problème de la précarité dans l'enseignement et la recherche. Entre 2012 et 2018, les établissements publics scientifiques et techniques, CNRS, INSERM, INRA, INED, etc., ont perdu 3650 postes de titulaires. Sur la même période, 2012-2018, les recrutements de maîtres de conférences ont diminué de 36% à l'université, et ceux de professeurs des universités de 40%. Aujourd'hui, on est dans une situation où plus de 40% des enseignements à l'université sont assurés par des vacataires. Des vacataires qui sont payés en dessous du SMIC. Donc on est aujourd'hui dans une situation où l'université repose principalement sur cette main-d'œuvre à très bas coût. Cette annonce, c'est purement de la communication. En plus, une communication très mal ficelée. Hein. Il y a pas mal de collègues qui, sur les réseaux sociaux, ont montré que les chiffres donnés par Madame Frédéric Vidal étaient parfaitement incohérents. Les pourcentages ne correspondront absolument pas avec les valeurs absolues. Et puis surtout, Madame Frédéric Vidal dresse un écran de fumée face à la précarité et face à la souffrance. Là, on est dans une situation nouvelle, parce qu'on se bat plus seulement pour alléger nos souffrances. On se bat véritablement pour la survie de l'université publique, qui joue un rôle politique pour l'ensemble de la société. Et je pense que Madame Vidal n'est pas consciente de la souffrance que ces réformes infligent à des travailleurs, des travailleuses et des étudiants et des étudiantes qui tous et toutes ont un même désir de production et de diffusion du savoir pour l'intérêt de tous et de toutes.
Gilles Martinet du collectif Fac et Labo en lutte, il répondait à Laura Dulieu, et retrouvez sur franceculture.fr notre article consacré au plan de revalorisation du gouvernement pour les jeunes chercheurs. L'écrivaine Ariane Fornia, condamnée pour diffamation par le tribunal de Paris en octobre 2017 en pleine éclosion de la vague MeToo. Ariane Fornia avait accusé l'ancien ministre Pierre Joxe de l'avoir agressée sexuellement. Agression qui aurait eu lieu en mars 2010 lors d'une représentation à l'Opéra Bastille. Le tribunal a estimé que la jeune femme avait jeté, je cite, le discrédit et l'opprobre sur Pierre Joxe, et cela sans étayer ses accusations. Ariane Fornia a été condamnée à versé 1 euro symbolique à l'ancien ministre ainsi que 3000 euros au titre des frais de justice. L'écrivaine compte faire appel de cette condamnation. La météo demain, les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont en vigilance rouge en raison du risque de crue. Il continuera à pleuvoir autour du golfe du Lion jusqu'aux Cévennes et il neigera sur les Pyrénées au-dessus de 1800 mètres. Sur le reste du pays, un temps calme et sec avec des brouillards le matin. Les températures minimales seront comprises entre moins 3 et 12 degrés du nord-est à la Méditerranée. Les maximales varieront entre 6 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.